Hey, man, we got to sign off. We know you love the show, but we do got to go. CKUT is about to cut us off and give the next show a crack at the airwaves. So, man, as always, got to let you know, this is a manifestation of true inspiration, dedication, and willingness to surpass the obstacles, fueled by camaraderie, man, brotherhood, and a real sense of integrity amongst individuals.
Shout out to the whole
entire
team.
Shout out to the whole
We pledge resistance.
What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
Et bonsoir à tous et à toutes, c'est l'heure des oreilles loin du fond, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Ce soir, pas d'invité en plateau, il fait très très chaud, mais on vous a préparé quand même une émission inédite à propos d'un thème qu'on aime aux oreilles, à savoir le féminisme. En fait, on vous passe des extraits d'une conférence qui a eu lieu pour le festival Raison d'agir pendant tout début avril 2022. Ça faisait 2 ans que le festival Raison d'agir n'avait pas eu lieu pour diverses raisons dont vous vous doutez des causes. Cette année, le thème était « Agir contre les dominations » et les extraits de la conférence qu'on a choisi de vous diffuser ce soir portent particulièrement sur la domination masculine, la question de la domination masculine et du féminisme. C'est une conférence de Christine Barr, donc, qui a été donnée pour le festival « Raison d'agir ». Christine Barr est professeure d'université à l'université d'Angers et elle a travaillé sur l'histoire du féminisme. Elle est historienne, mais particularité, c'est ça qui nous a intéressé pour ce soir, c'est qu'elle s'est aussi penchée sur l'histoire de l'antiféminisme. Et en fait, elle s'est penchée sur la dialectique des mouvements antiféministes avec le féminisme pour mieux comprendre l'histoire du féminisme. Donc, dans le premier extrait qu'on va vous diffuser, elle revient justement là-dessus, hein, pourquoi faire l'histoire de l'antiféminisme. Et puis, elle revient aussi sur l'histoire du vocabulaire féministe qu'on utilise maintenant, notamment l'expression domination masculine, hein, qui est évidemment marquée par le stigmate social. Les mots du féminisme ont eux-mêmes une histoire qui est une histoire de domination. On l'écoute tout de suite.
Alors, ça a été dit, l'originalité de mon approche, c'est de faire de l'histoire des féminismes au pluriel et des antiféminismes au pluriel. Sur ces sujets, j'ai dirigé deux livres collectifs à 20 ans de distance, Un siècle d'antiféminisme paru en 99, et puis il y a 2 ans, Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui. Donc là, on voit apparaître le terme masculinisme, qui n'était pas utilisé à la fin du 19e siècle, à la fin du 20e siècle, et qui renvoyait à une réalité différente. Hein, là, il y a vraiment un mouvement militant qui s'appelle ainsi. Et d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'il y a un renforcement de l'antiféminisme et du masculinisme de nos jours, à la mesure de l'essor du féminisme et de la conscience féministe. Il y a un dynamisme. Alors, c'est toujours difficile de comparer avec le passé, mais je me demande si dans le passé, on a déjà eu un tel niveau de conscience féministe et de mobilisation féministe. On a le nez sur le guidon, mais on vit sans doute quelque chose là d'exceptionnel, mais de fragile, qui peut aussi bien produire des retours en arrière très, très rapides. Alors justement, c'est un peu ça que je voulais dire. Ma sensibilité personnelle à l'histoire des antiféminismes vient aussi du fait que, puisque je suis née en 1965, j'ai vécu le backlash, donc la régression féministe des années 80. Je suis devenue assez jeune féministe, je faisais du syndicalisme étudiant, on a préparé une expo pour le 8 mars à la fac et j'ai proposé à mes camarades que nous allions nous informer à la Maison des Femmes de Lille, j'étais à Lille, et c'est un petit peu comme ça que je suis devenue féministe. Donc j'étais avec des féministes des années 70 qui avaient vécu des moments de mobilisation exaltants après mai 68, mais j'ai commencé comme militante dans des manifs où on était 15, 20. Je me souviens de manifestations dénonçant des viols suivis de meurtres sur la grande. On n'avait pas encore le mot féminicide, mais les seules personnes qui nous applaudissaient, c'était des gens d'extrême droite qui disaient bravo, faut y aller, la répression, et qui supposaient forcément que les violeurs ou les meurtriers étaient des Arabes. C'était ça. Et en fait, on avait l'impression d'une incompréhension totale du public avec nos actions et la conscience qu'on avait de ce qu'on n'appelait pas encore les féminicides. Donc, il y avait le backlash des années 80. Il y avait le fait que j'ai fait une thèse sur les féminismes en France entre 1914 et 1940, donc qui incluait la question de la guerre et des régressions que provoque toute guerre. Hein, il ne faut jamais dire que la guerre a émancipé les femmes, ça c'est vraiment... c'est atroce. C'est faux, c'est atroce, comme si la guerre pouvait émanciper qui que ce soit. Au contraire, les guerres ont provoqué des retours à l'ordre, des politiques natalistes extrêmement dures. Donc il y avait deux guerres dans mon sujet, et puis il y avait la crise des années 30. Hein, cette crise multiforme... économique, sociale, politique, internationale, qui a provoqué une sorte de démobilisation des féministes qui sont allées vers le combat antifasciste pour les plus jeunes, et puis des politiques sans attendre les années Pétain, des politiques de régression pour les droits des femmes. Donc, bon, ma thèse, elle n'était pas spécialement gaie dans son... La situation que j'étudiais, en tout cas, était pleine de gravité et montrait un mouvement de reflux féministe dans les années 30. Puis si je tiens aussi beaucoup à parler d'antiféminisme, c'est aussi tout simplement pour rendre justice et fémage, comme on dit maintenant, aux militantes féministes. Parce que si on ne montre pas la dureté de l'adversité qu'elles rencontrent, comment elles sont ridiculisées, délégitimées, oubliées par la postérité, etc., etc., eh bien, on ne fait pas tout à fait correctement leur histoire. Hein. Voilà, donc je regrette qu'il y ait si peu de choses sur l'histoire et même l'actualité des mouvements antiféministes. Les féminismes, alors là, on a des bibliothèques, des rayonnages entiers sur l'antiféminisme, la bibliographie internationale. Elle commence à se renforcer. Il y a Francis Dupuy-Déry et Mélissa Blé au Québec qui ont fait vraiment du bon travail, hein, qui nous ont aussi avancé ensemble. Bon, c'est pas un hasard hein, si ça a beaucoup bougé au Québec. Hein, c'est lié aussi au massacre de Polytechnique. Hein, en 89, hein, quand un étudiant est entré dans l'école polytechnique et a demandé aux étudiants de sortir d'une classe et a tué des étudiantes parce qu'elles étaient des femmes dans une école dont ils estimaient qu'elle correspondait à des vocations masculines. Le tueur avait mis un signe égal finalement entre femmes dans ce genre de formation et féministes. Bon, beaucoup de choses à faire. Alors, dans mon sujet, avant de rentrer dans un plan qui va vous parler de l'histoire des féminismes, de l'histoire de l'antiféminisme des hommes et de l'histoire de l'antiféminisme des femmes, quelques mots sur le vocabulaire, parce qu'on transmet l'histoire avec des mots, et nos sources, ce sont aussi des mots, des discours principalement. Et il faut bien remarquer, pendant longtemps, une pauvreté du vocabulaire hein, pour dire la domination masculine et la révolte des femmes contre la domination masculine. Par exemple, le mot sexisme, il est si tardif. Hein, c'est seulement dans la seconde moitié des années 70 qu'on commence à parler de sexisme. Avant, on parlait de racisme anti-femme. Ou de misogynie, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose. Domination masculine, Je suis assez vieille pour avoir connu l'époque où il était impossible à l'université de parler de domination masculine. C'est Bourdieu qui, en publiant un livre portant ce titre, Bourdieu donc, qui était au sommet de sa carrière, qui a eu un effet légitimant pour l'emploi de cette expression-là. Pas seulement en sociologie, mais en histoire. Hein. Et quel soulagement, hein. Donc finalement, c'est aussi un effet de la domination masculine. Bon, Bourdieu a pu parler de la domination masculine, et donc ça a apporté quelque chose. Alors que, bon, bien sûr, des féministes employaient déjà cette expression, mais c'était... Dès qu'on disait domination masculine, on avait l'impression d'avoir une étiquette énorme, fluo, avec les flashs, attention féministe, hyper radicale. C'était les années 90, hein, dans les universités françaises. Donc l'importance d'avoir des mots pour mener un combat, pour dénoncer une domination, c'est fondamental, c'est un des aspects de la lutte féministe, les néologismes. Et je vais juste m'attarder sur un néologisme essentiel ce soir, c'est le mot féminisme. Donc ce mot, il apparaît pour la première fois dans un sens politique en 1872. C'est un écrivain, Alexandre Dumas fils, qu'il emploie dans un pamphlet antiféministe qui s'appelle L'homme-femme, et où il justifie d'ailleurs le féminicide. Et donc c'est quand même drôlement intéressant. Alors il l'emploie dans le sens de ceux, donc celles et ceux, hein, donc il inclut les hommes, qui voudraient nous faire croire que les hommes et les femmes c'est pareil. Donc lui, il dit non, on ne peut pas comparer les pommes et les poires, on ne peut pas dire qu'une poire est égale à une pomme. La négation de la différence, c'est une folie. Hein, et c'est ça, le féminisme, c'est une folie. Une pathologie politique. Et alors, ça, ce que je ne sais pas, c'est s'il était au courant ou pas qu'un an avant, une thèse de médecine avait été soutenue qui s'intitulait « Du féminisme et de l'infantilisme chez les sujets tuberculeux ». Donc il y a une forme de tuberculose qui crée qui a un impact sur les caractères secondaires sexuels. Donc les hommes atteints de cette maladie ont... peu de pilosité, une voix fluette, etc. Donc on est passé du sens d'effémination pathologique au sens de la pathologie politique. Donc c'est quand même incroyable, quoi, que ce mot qui va porter un combat, qui va résumer en un mot un combat, parce qu'avant on disait lutte pour les droits des femmes, pour l'émancipation des femmes, il y avait des expressions mais pas un mot. Ce mot là bien pratique, il a quand même été inventé par un antiféministe pour dénoncer ce qui va devenir un grand combat porté par des associations, etc. Donc c'est pas neutre du tout, hein, et le fait que ça renvoie à de la pathologie et que ça renvoie aussi à la question du genre, parce qu'avec le féminisme, les hommes ne sont plus tout à fait des hommes parce qu'ils sont malades, et les femmes ne sont plus tout à fait des femmes parce qu'elles veulent être les égales des hommes, donc elles sont dénaturées. Voilà, donc ça va loin, c'est une origine qu'il faut assumer. Alors 10 ans plus tard, Hubertine Auclert, qui est la première suffragette et suffragiste française, adopte le mot. Et 10 ans encore plus tard, en 1892, on commence à avoir des congrès, des associations qui s'appellent féministes. Et le mot va circuler ensuite, être traduit en anglais, en allemand, dans beaucoup de langues, pas dans toutes les langues d'ailleurs. Bon, donc on garde bien des connotations négatives, hein, de ce mot. Je ne suis pas féministe, mais il y a un malaise avec ce mot qui perdurent, mais il faut bien comprendre que ces connotations négatives, elles ont été forgées par des discours antiféministes qui ont été répétés. Et que la peur du féminisme va concerner l'égalité des sexes, certes, mais aussi le remodelage total de la société patriarcale qui est fondée sur deux classes de sexe, deux classes de genre qui doivent coïncider. Hein, c'est le système de sexe-genre qu'on connaît en Occident. Et ces deux classes, elles ne sont pas égales, on le sait, elles sont hiérarchisées. Hein, il y a des rapports de domination. L'égalité totale dissoudrait probablement cette différenciation, cette hiérarchisation. C'est ce que dit le féminisme matérialiste depuis les années 70, Christine Delphi, Colette Guillaumin, Nicole Claude Mathieu. Avant, ma chère Madeleine Pelletier, parce qu'on a des préférences hein, quand on étudie l'histoire des féminismes, Madeleine Pelletier, c'est vraiment pour moi une féministe vraiment très en avance sur son temps. Elle est née en 1874, elle est morte en 1939, internée dans un asile après avoir été jugée coupable d'avortement clandestin. Elle était médecin. Et Madeleine Pelletier pensait ça, elle s'habillait en homme hein, et elle pensait qu'il fallait dissoudre la différence et que les femmes devaient prendre par exemple les vêtements les plus pratiques qui sont ceux de la classe dominante. Voilà, c'était pas parce qu'ils étaient masculins, c'était parce que c'était les vêtements de la classe dominante. Voilà, donc elle est tout à fait fascinante. Alors, cette idée de la disparition des classes de sexe-genre, la peur de l'indifférenciation des sexes, je pense que c'est vraiment un des moteurs de l'histoire. Et il faut regarder ça de près parce que ça a beaucoup d'efficacité politique. On peut le souhaiter, on peut aussi le redouter. Et dans le discours de l'antiféminisme, la perspective d'une indifférenciation des sexes, c'est vraiment c'est ça qui va mobiliser. C'est ça dont il faut préserver la société. Alors ça renvoie sans doute à des émotions aussi spécifiques, à un imaginaire sexuel particulier, un imaginaire hétérosexuel formaté d'une manière très, très classique. Que deviendra le couple hétérosexuel si on dissout la différence traditionnellement admise ?
J'avais jamais vu de nuit aussi claire. Je regarde enchaîner les cigarettes. C'est l'homme qu'on lance dans son enfant, toujours les cigarettes. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant, aucun mot sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Non, mais j'hallucine. Je sais déjà ce que la distance entraîne, soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'est trop beau pour elle. Soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'écrase.
rêve, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil, maintenant pars loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, serre-moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Pour c'est le chaos. Regarde-nous le destin par honte. Les durs par honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours au chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. C'est comme la drogue, on a toi plané. Son dos, mon torse fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que si on rappelle pourquoi je l'aime. Revoile le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier acte comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pars loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'est trop beau pour être.
Et c'était trop beau de Chrysologo et Emma Peters. Bah, ce soir, pas d'invité en plateau. On vous passe des extraits d'une conférence qui a été donnée par Christine Barr au moment du festival Raison d'agir, donc début avril 2022. Tout le programme de la conférence est à retrouver sur leur site. Donc, dans le premier extrait, en fait, elle expliquait un peu sa démarche et l'intérêt de faire aussi l'histoire de l'antiféminisme quand on fait l'histoire du féminisme. Et puis de faire aussi l'histoire du vocabulaire féministe en prenant en considération que c'est un vocabulaire qui est marqué évidemment par l'antiféminisme. Dans ce deuxième extrait, elle fait un retour bref sur les figures historiques du féminisme, mais surtout elle tente de clarifier les lignes de tension qui ont structuré l'histoire du féminisme. À quel moment lutter ? Est-ce qu'il y a un bon moment pour être féministe ou un mauvais moment pour être féministe ? Qui est féministe ? Qui a le droit de... Est-ce que tout le monde a le droit de se dire féministe ? Est-ce que quand on se dit féministe, ça veut dire qu'on est féministe ? Comment est-ce qu'on est féministe ? Quels sont les répertoires d'action, etc. Et ce sont en fait des lignes de tension qui expliquent des enjeux et des conflits qu'on retrouve dans le féminisme encore aujourd'hui. On l'écoute.
Alors, quelques mots maintenant sur les féminismes d'un point de vue historique. C'est plus une grille de lecture parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut penser l'histoire du féminisme ou des féminismes au prisme du genre, donc en tenant compte de la situation historique des femmes, situation dominée, donc avec des moyens particuliers. Alors, il y a la question du camp et du contexte dans les luttes féministes. Hein, c'est toujours très important de les contextualiser, de voir le rôle qu'ont pu jouer les brèches révolutionnaires dans le passé. Ça ouvre des espaces de contestation pour les femmes. Les périodes où les libertés sont assurées, liberté de réunion, liberté syndicale, liberté d'expression. Hein, le féminisme avance en s'appuyant sur ces libertés collective. C'est pour ça que la Troisième République a été le moment où le mouvement féministe est devenu pérenne, hein, avec des associations solides, parce que le droit d'association, la fameuse loi de 1901 par exemple, était assuré. L'importance de l'éducation des filles. Moins les femmes sont éduquées dans un pays, plus le mouvement féministe a du mal à se développer. Donc l'éducation, c'est la base de tout. Ça, c'est le béaba du féminisme. Ça a toujours été la priorité des féministes. C'est donner une éducation aux filles. Après, avec beaucoup de débats sur quelle éducation, je ne rentre pas dans les détails. Et dans le contexte, toujours tenir compte des interactions avec d'autres luttes émancipatrices. Par exemple, historiquement, au XIXe siècle, les interactions avec le mouvement ouvrier et les mouvements révolutionnaires sont très importantes. On estime que l'émancipation humaine, enfin que le féminisme est une dimension de l'émancipation sociale, de l'émancipation humaine. Donc le mouvement féministe n'est pas toujours pensé d'une manière séparée des autres mouvements d'émancipation. Ce qui pose toute la question des hiérarchies. Est-ce qu'il y a une lutte prioritaire, une lutte secondaire? Dans quel ordre on prend la lutte? Dans quel ordre on prend les luttes contre les différentes dominations? Donc, toutes sortes de questions autour du quand. Les questions autour du qui. Qui est féministe? Qui peut l'être? Qui peut accéder à cette forme de luxe qui est de militer? Évidemment que les femmes les plus dominées sont rarement à l'avant-garde du féminisme parce qu'elles ont déjà une double journée, parce que la vie est déjà tellement difficile pour elles que l'engagement est inconcevable, quoique il y a des exemples dans l'histoire quand même, avec des femmes autodidactes, surtout au 19e, quand on voit les féministes de la période de la révolution de 1848, elles sont lingères, alors certaines sont institutrices, ouvrières, enfin, y a quand même beaucoup de métiers manuels de femmes. C'est pas du tout bourgeois. Il y a des périodes où ça peut paraître plus bourgeois, mais c'est aussi souvent une question de point de vue. Les bourgeoises sont peut-être plus visibles, ont plus accès à la presse. Mais après, c'est comment on travaille en histoire. Parfois, on met en survisibilité certains types de féministes en négligeant d'autres engagements. En tout cas, il y a toute une réflexion à avoir, évidemment, sur la sociologie du militantisme selon les époques. Mais en tout cas, il est évident que les femmes ayant des moyens intellectuels, financiers, du temps... souvent une position aussi conjugale, question qu'on ne va pas trop se poser pour les hommes militants. C'est pour ça que je disais qu'il faut genrer l'étude des femmes célibataires indépendantes, comme Maria de Rheims, une des grandes féministes du 19e siècle, ou bien des femmes qui sont dans des mariages progressistes, qui ont des compagnons avec lesquels elles ont des relations d'égalité. Et il y a souvent d'ailleurs des couples hommes-femmes qui s'engagent. Donc un profil qui peut être assez intellectuel. Et puis les hommes. Alors moi, je n'ai pas de problème à dire qu'il y a des hommes féministes. Je ne vais pas les appeler pro-féministes. Ils s'engagent dans des associations. Alors bien sûr, on peut voir se reproduire des rapports de domination avec la présence de certains hommes, notamment Léon Richer, qui a créé avec Maria de Rheims le féminisme républicain. Bon, il a vite été considéré comme un tyran, il voulait tout régenter, il savait tout sur tout. Et puis finalement, les féministes sont parties créer une association à côté parce que c'était plus possible d'être avec lui. Reproduction des rapports de domination. Mais pendant longtemps, on n'a pas hésité à le qualifier de père du féminisme. C'est totalement oublié aujourd'hui. On n'aurait plus du tout l'idée de le qualifier comme ça. Donc, beaucoup de choses à dire sur le qui. On y avait bien réfléchi pour le dictionnaire des féministes, puisqu'il s'agissait d'identifier des féministes ou pas. C'est une question compliquée. Le comment. Il y a beaucoup de choses à dire sur le comment agir, le comment lutter pour le féminisme. Alors juste quelques idées. La force des vecteurs culturels pour le féminisme. la presse, la littérature, puis le cinéma. Je suis très frappée par la force des témoignages à la première personne du singulier. Le féminisme essaie de construire un nous les femmes, mais la lecture de témoignages autobiographiques de femmes, très complets, parlant aussi de leur éducation, de leur vie intime, voire de leur vie sexuelle, ça a une force magnifique, hein, d'où le succès, par exemple, de Simone de Beauvoir, qui est surtout aussi une mémorialiste. La force de l'associationnisme, de l'association. Hein, le féminisme, c'est un combat collectif. Donc, il passe beaucoup par des groupes, par des collectifs, par des associations. Ça, c'est sur le comment lutter. C'est aussi le béaba. La création de réseaux, l'utilisation des moyens de communication qui vont évoluer, évidemment, beaucoup dans le temps. Hein, une des caractéristiques du féminisme contemporain, c'est Internet, les réseaux sociaux. D'ailleurs, la troisième vague, on la date de 95. C'est parce que c'est justement une dimension hyper importante. Il n'y a pas de MeToo sans les réseaux sociaux, sans cet effet viral dont on parle beaucoup. Mais avant, il y avait d'autres manières de communiquer pour briser l'isolement, qui est quand même une des grandes caractéristiques de la condition féminine. Isoler les femmes, les unes des autres. Les lieux où il y a beaucoup de femmes qui travaillent ensemble, qui se retrouvent, sont souvent des lieux propices au féminisme. Les institutrices, les écoles normales, par exemple, d'institutrices. Et puis, il y a des questions à se poser aussi sur le répertoire de l'action collective. Est-ce que les femmes ont à leur disposition les mêmes moyens que les hommes ? Non. Il y a moins d'argent. Beaucoup moins d'argent. C'est un mouvement qui a toujours été pauvre, le mouvement féministe. Il y a moins d'argent, il y a moins d'accès à la rue. Il y a un effet de l'éducation aussi des femmes bourgeoises, surtout en France, qui hésitaient à aller dans les rues, qui ne voulaient pas faire comme les suffragettes anglaises. Elles avaient peur d'être ridicules. Donc la manifestation, pendant longtemps, n'a pas été tellement utilisée par les féministes. Donc on pourrait réfléchir à tous les moyens d'action, les pétitions, etc., et puis se demander si les femmes y ont accès de la même manière que les hommes ou pas. Et on verrait que non. Hein. Et puis, dernière remarque sur les féministes. Au nom de quoi la lutte est-elle menée ? Ça varie dans le temps et ça varie selon les sensibilités féministes. Aujourd'hui, on dit quel est le sujet du féminisme, hein, quel est le sujet politique du féminisme. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'humanisme. Au XIXe siècle, il est assez fréquent qu'on dise que le féminisme est un humanisme. Bon. Il y a le « nous les femmes », construire un « nous les femmes », donc une identité féministe fondée sur l'expérience d'être femme. Et pour beaucoup, pendant longtemps, l'expérience d'être mère. On oublie à quel point, pendant longtemps, avant le MLF, la maternité était un peu était le point saillant de l'identité de la plupart des femmes, et beaucoup de féministes agissaient en tant que mères. Ça n'a pas complètement disparu de nos jours, mais ça a beaucoup régressé. Donc le nous les femmes, il est très difficile, même si c'est pas dur de démontrer qu'il y a une condition commune aux femmes, hein, quand même. Sur le plan juridique, c'est une évidence. Il y a aussi toutes ces disparités entre femmes. Comment on fait le lien entre une femme domestique, par exemple, et une femme de l'aristocratie ou une grande bourgeoise, les ouvrières et les paysannes, des femmes en milieu urbain, propices au féminisme, milieu rural, beaucoup moins. Alors, comment créer ces liens, du lien vraiment entre toutes ces femmes ? C'est l'éternel défi du féminisme quand il se fonde sur la construction du « nous les femmes ». Alors on dit beaucoup que le féminisme de la troisième vague a abandonné le « nous les femmes ». Alors je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est vrai de certaines tendances, mais pas de toutes. Mais pour beaucoup de féminisme contemporain, ce qui relie, c'est la déconstruction du genre, et des catégories. Et de ce qu'on a appelé être un homme, être une femme. Et là, il y a une influence du milieu LGBTQIA+, qui est très importante et qui ne doit pas nous surprendre. Parce que tout au long de l'histoire, il y a eu des interpénétrations entre différents mouvements d'émancipation. Donc en ce moment, c'est certainement ce lien-là, plus les luttes antiracistes et postcoloniales, qui créent des liens. Hein, voilà. Donc ce n'est pas une question simple, et tout est dans... Vraiment, il y a une grande diversité de positionnements, ce qui explique qu'il y ait beaucoup de conflits entre féministes. Je ne vous apprends sans doute rien. Mais rassurez-vous, c'est très ancien. Hein, imaginez deux secondes, dans les années 1900, les féministes qui n'étaient pas d'accord entre elles, parce que certaines disaient « il faut le droit de vote », revendication qui nous paraît évidente, et d'autres qui disaient « oh non, c'est trop tôt, on ne va jamais y arriver, c'est vraiment très radical, non, non, commençons par demander un petit bout de droit civil ». Voilà, je pense qu'elle ne devait pas être très copine, hein, celle qui avait des visions aussi différentes. Prenons un autre exemple, l'avortement. La plupart des féministes étaient pour la répression de l'avortement, et puis il y avait quelques féministes néo-malthusiennes qui étaient pour le droit à l'avortement, comme Madeleine Pelletier, qui étaient pour le droit à l'avortement et à la contraception. Et elles étaient minoritaires, elles étaient combattues par les autres, qui posaient dans la presse féministe avec des familles nombreuses qui faisaient partie d'associations natalistes. Enfin, on ne pouvait pas imaginer plus opposé. Hein, donc, ça rassure un peu. Voilà, il y a toujours eu des oppositions au sein des courants féministes, parce que la question soulevée par le féminisme est tellement complexe, et une société, c'est tellement complexe que, bon, bah, forcément... on ne peut pas avoir une unique voix.
Il y avait l'océan et les surfeurs sur la plage, comme un souffle d'adolescent, emporté en plein naufrage, comme le voyage impossible d'un découvreur romantique, lâché dans les eaux dociles, avec envie pacifique. Plus vivre à Paris, il y fait froid et il fait gris. Là-bas, l'espoir s'est tari et on pleure de rire. Je me souviens de ton rire quand la nuit tombe sur nous. Ils ont vu la mort souffrir. Rosé du cœur, aimons-nous grand bien.
surfeur sur la plage, comme un souffle d'adolescent, emporté en plein naufrage, comme un hiver 2003, comme un souvenir VHS, comme un regard maladroit, comme la beauté sans le reste.
Et oui, Océan Forever, PR2B, c'est vrai qu'il fait très chaud à Paris en ce moment. Vous êtes
toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front sur 106.3. Et ce soir, on va du côté du festival Raison d'Agir.
Oui, ce soir, on va du côté du festival Raison d'Agir. On vous passe des extraits d'une conférence qui a été donnée dans le cadre de ce festival par Christine Barre autour du thème de la domination masculine, du féminisme, mais aussi de l'antiféminisme. Alors, dans les extraits précédents, donc, elle avait fait un bref rappel de l'histoire du féminisme, des figures historiques du féminisme et puis des grandes lignes de fracture du féminisme, des grandes questions qui nous traversent encore. Dans l'extrait qui va venir, elle s'attelle justement à essayer de circonscrire l'antiféminisme et de poser les jalons d'une histoire antiféministe.
Alors, sur les antiféminismes maintenant, du côté des hommes, donc c'est à analyser aussi au prisme du genre, sur un fond systémique de sexisme, de misogynie culturelle, qui vont nourrir l'antiféminisme. Alors, l'antiféminisme, je le définis vraiment comme une opinion politique. C'est conscient. La misogynie, ça peut être intériorisé, transmis, c'est peut-être moins conscient. On peut être aussi sexiste d'une manière un peu routinière et pas très consciente. En revanche, quand on affirme « je suis contre l'émancipation des femmes » ou « l'égalité des sexes », là, il y a vraiment une prise de position politique. Donc, ça relève de l'histoire politique. J'aimerais bien qu'en histoire politique, les historiens le reconnaissent. Parce que c'est un aspect qui est négligé. Hein, par exemple, dans la définition de l'extrême droite que donnent les historiens, il y a la xénophobie, il y a le populisme, il y a toutes sortes d'identifiants. Ben, il n'y a pas l'antiféminisme. Alors que c'est dans le logiciel de l'extrême droite, c'est dans leur programme, le vote familial, pas le vote des femmes, des quotas pour les femmes à l'université, pour réduire le nombre de femmes à l'université, tous ces genres de choses, les femmes au foyer pour faire plein d'enfants, si possible des garçons, ça c'est dans le programme de l'extrême droite historique, et c'est vraiment choquant. Donc le sexisme, il est aussi du côté des savants, du côté de l'université, hein, quand on voit qu'on a une histoire politique qui oublie cette dimension-là. Alors, l'antiféminisme, il s'est développé principalement quand même dans un cadre de pensée réactionnaire, contre-révolutionnaire, puis l'Action française, les mouvements de droite et d'extrême droite, qui fantasme sur une société d'ordre traditionnel où le pouvoir des hommes est assuré par la loi et par les mœurs. Donc là, il y a quelque chose d'assez cohérent. Il y a une dimension religieuse assez forte, hein, enfin une dimension catholique, proprement catholique, qui vient en soutien de cette pensée sur l'ordre social qui est nécessairement patriarcal. Alors, ce que j'ai essayé de défendre dans des écrits plus récents, c'est que dans cet antiféminisme d'extrême droite, conservateur, réactionnaire, il y a souvent une intersectionnalité des haines. C'est de la même manière que les féministes ne fonctionnent pas toutes seules et ont des interactions et sont souvent aussi féministes et syndicalistes, féministes et autre chose, les antiféministes d'extrême droite, ils sont aussi antisémites. Hein, ils sont aussi xénophobes. Ils tiennent aussi des discours haineux à l'égard des Noirs, des Arabes. Alors, pour les périodes que j'ai étudiées, il y a une plus forte présence de l'antisémitisme, qui, bien sûr, est toujours présent aujourd'hui à l'extrême droite. Et il y a des cibles. Hein, dans ce livre-là, j'avais dépouillé le journal Minute, qui est un peu le canal historique de l'extrême droite. Et là, on voyait bien les cibles. Hein, c'était, comme par hasard, Christiane Taubira. Hein, on retrouvait femmes noires ayant défendu le mariage pour tous. Minute a été condamnée pour avec Christiane, montrant une image dégradante, raciste de Christiane Taubira, ou bien Najat Vallaud-Belkacem, très exposée aussi, où on retrouvait plusieurs dimensions, dont les ABC de l'égalité, ou bien Judith Butler, pour mettre en avant qu'elle est femme, lesbienne, juive, américaine, etc. Enfin, etc. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'etc., mais ils en trouveraient sans doute encore. C'est presque sans fin, les haines. Voilà, ça me semble vraiment important de ne pas isoler l'antiféminisme des autres haines, parce que ça s'articule. Hein. L'idée que le mouvement féministe est un mouvement juif, par exemple, c'est très ancien. À la fin du 19e, on a déjà ça. Hein. Il y a aussi de l'anti-protestantisme, mais ça n'a évidemment pas du tout la même portée. Un autre point aussi, évidemment je pourrais vous en parler des heures, hein, de l'antiféminisme, mais ce n'est pas mon but ce soir, mais le déclinisme, hein, de Houellebecq à Zemmour, Finkielkraut, etc., il y a un fond décliniste, on appelait, qui existait déjà fin 19e, début 20e, c'était plutôt le mot décadence qui était employé. Mais ça correspond aussi à une vision de la société où tout fout le camp, on ne peut plus rien dire, tout va mal, tout va archi mal, c'est la fin du monde et pour demain, c'est le chaos social. Ce discours décliniste, il fait vraiment le lit de l'extrême droite antiféministe. Et c'est vraiment à relier. Il y a un auteur que j'aimerais bien rééditer, Jean Finot, qui avait écrit dans les années 1900 un très bel essai antisexiste qui s'appelle « Le préjugé des sexes ». Et il avait toute une démonstration sur la philosophie de l'optimisme. Elle pousse du côté de l'émancipation et du féminisme. Et la philosophie du pessimisme, Nietzsche, enfin les penseurs de l'époque, fin 19e, début 20e, nous emmène du côté des haines, de la guerre, de l'activation en fait, des discours de haine, de défiance, de peur. Je trouve cette réflexion vraiment intéressante. Alors, quelques mots quand même sur l'antiféminisme à gauche ou à l'extrême gauche, parce que l'antiféminisme, il peut être transversal. Il y a 20 ans, on insistait beaucoup sur cette transversalité. On a l'exemple de Proudhon, donc Francis Dupuy-Déry a fait un article sur Proudhon qui est accablant avec aussi l'intersectionnalité des haines. Le père de l'anarchisme, quand même, c'est pas rien, inspirateur du mouvement ouvrier français, même s'il y a une concurrence avec Marx. Et là, il faut reconnaître que la défense de la famille traditionnelle, ménagère ou courtisane, la défense par un mouvement ouvrier dominé par les hommes du privilège du travail, enfin toute une vision de l'organisation sociale, en fait, patriarcale, hein, on la trouve aussi en partie à gauche, mais pas toujours. Il y a aussi le féminisme à gauche, tandis qu'il n'y a pas le féminisme à droite et à l'extrême droite. Et ça fait une grosse différence quand même. Parce que on peut avoir dans l'histoire des gauches une vision très harmonieuse et complète de l'émancipation humaine qui inclut le féminisme, comme on peut avoir aussi des Proudhon et d'autres qui disent Ah ben non, on ne va pas donner le droit de vote aux femmes, on ne sait pas ce qu'elles en feraient, hein. Elles sont tellement imprévisibles, quand elles ont leurs règles, elles font n'importe quoi, voilà, ces discours misogynes, cette peur du curé aussi, qu'on retrouvait tellement dans les discours des radicaux, on la trouve aussi à gauche, congrès du Parti Socialiste dans les années 30, où on dit, si on donne le droit de vote aux femmes, elles vont voter pour l'extrême droite, et ce sera fini pour la démocratie, donc voilà, n'importe quoi. Souvent, l'antiféminisme, c'est n'importe quoi. Hein. Mais n'importe quoi qui marche et qui marche dans un congrès socialiste. Donc, la gauche, avec majoritairement des militants masculins, hein, a eu beaucoup de mal, en fait, hein, à intégrer le féminisme. On a souvent l'image du rendez-vous manqué, hein, 1936 notamment, pendant le Front populaire. Donc, voilà, y a beaucoup de rendez-vous manqués. Hein. Et je crois que ce que la gauche a toujours eu du mal à supporter, de toute façon, c'est que le féminisme défende son autonomie, hein, soit un mouvement d'émancipation concurrent. Bon. Il aurait pu en être autrement si le mouvement ouvrier, à un certain moment, avait pu s'unir avec le mouvement féministe. Et puis, bah, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que ces mouvements étaient bien travaillés par des rapports de domination. Et voilà, c'est peut-être une des explications. Alors, j'arrive à ma troisième partie sur les antiféminismes féminins. Alors, c'est souvent quelque chose qui surprend. C'est un peu tabou. Les féministes n'aiment pas en parler. C'est un peu comme si on leur faisait de la pub en parlant. Mais pourtant, il faut bien affronter la question, surtout de nos jours. Quand on voit tant de mouvements d'extrême droite dirigés par des femmes, et quand on voit qu'il n'y a plus de différence quasiment entre le vote des femmes et le vote des hommes pour les candidats d'extrême droite, ce n'est pas vrai pour Zemmour, mais c'est vrai pour Marine Le Pen et c'est vrai dans d'autres pays d'Europe. Question politiquement essentielle. Pourquoi des femmes sont-elles antiféministes ? Alors, il y a trois interprétations, me semble-t-il, du phénomène. Il y a l'interprétation un peu 70s, les femmes sont aliénées, elles sont soumises, et donc elles développent une fausse conscience, et elles finissent par défendre les intérêts de leur oppresseur, parce qu'elles sont tellement dominées que les pauvres, elles ne peuvent pas faire autrement. Alors, c'est un peu méprisant, je trouve. Je ne sais pas si ça serait bourdieusien comme raisonnement, mais en tout cas, c'est insister sur... elles sont tellement dominées. Elles sont tellement dominées, les pauvres. Deuxième interprétation qui a beaucoup de succès chez les jeunes chercheuses, l'agentivité, le pouvoir d'agir. C'est d'étudier des mouvements de femmes d'extrême droite ou conservateurs en disant... Mais vous voyez, ce n'est pas si antiféministe qu'on pourrait le croire, puisque dans ce cadre-là, elles trouvent des moyens d'action, une forme d'émancipation. Finalement, elles ne restent pas à la maison, elles sortent, elles militent, elles sont dans la rue pour défendre des idées, c'est vrai, hyper antisémites, hyper antiféministes, hyper tout ça. Mais quand même, c'est une forme d'émancipation, c'est de la gentilité. Alors moi, ça me fait sortir de mes gonds. Je ne nie pas que... Il y a une forme d'agentivité dans l'adhésion et le militantisme dans ce genre d'organisation, et que certaines femmes peuvent avoir l'impression de devenir des femmes puissantes, comme on dit aujourd'hui, en défendant des idées d'extrême droite. Enfin, on ne peut quand même pas s'arrêter là, parce qu'elles adhèrent quand même à des mouvements qui ne sont pas émancipateurs pour les femmes. Et elles sont des contradictions vivantes, puisqu'elles jouent un rôle public... en gros pour dire que tout allait mieux quand les femmes restaient dans la sphère privée, hein, et qu'elles élèvent mal leurs enfants si elles travaillent, etc. etc. Donc, la gentilité, un peu mais pas trop, hein, à mon avis, dans l'interprétation. Alors, mon interprétation, c'est... mon regard, il a été éveillé par Rita Talman et son séminaire Sex et Race à Jussieu dans les années 80. Rita Talman a étudié les femmes sous le Troisième Reich. Et j'ai trouvé sa démonstration très magistrale pour dire que... Et ça, une interprétation qui ne plaisait pas aux féministes allemandes. Les féministes allemandes, elles disaient les femmes sous le Troisième Reich, était victime d'un super patriarcat, le nazisme, et elle n'était que victime. Mais à ce moment-là, comment on explique qu'il y avait plein de femmes qui applaudissaient Hitler, qui étaient dans les organisations féminines hitlériennes et qui étaient capots dans des camps? Elles n'étaient pas donc que des victimes. Elles avaient aussi des responsabilités, des convictions qu'elles défendaient. Donc Rita Thalmann disait, il faut reconnaître que les femmes ont une responsabilité historique. Elles sont certes dominées, mais pas complètement. Sinon, il n'y aurait même pas de féminisme. Il y a une marge de liberté, il y a des interstices, il y a des brèches. Et voilà, ça me semble fondamental de penser en ces termes et de faire un retour aux politiques et de dire que les femmes font, alors on peut nuancer, mais quand même, des choix politiques dès lors qu'elles sont éduquées, qu'elles vont à l'université, qu'on travaille, il y a des avocates, il y a des journalistes, des femmes journalistes, enfin on n'est pas dans une... Il y a de la domination masculine, mais le patriarcat n'est pas absolu. Hein. Voilà, donc moi, c'est ça ma première réaction sur l'antiféminisme féminin, c'est de reconnaître que ces femmes font des choix politiques et des choix qui ne sont pas féministes. Alors ça, c'est un autre débat, et on entend de ci, de là, dire qu'il existe un féminisme d'extrême droite. Et ce que moi, j'appelle l'antiféminisme d'extrême droite, parfois, on le désigne comme une forme de féminisme. Et d'ailleurs, il y a une récupération aujourd'hui d'idées féministes, d'éléments de langage, disons, même chez Marine Le Pen notamment, avec des visées xénophobes. Hein. Donc non, il n'y a pas de féminisme d'extrême droite. Ce sont des femmes qui font des choix politiques, qui inventent des choses. Par exemple, Marthe Borelli, au début du XXe siècle, elle avait repris le slogan de Maurras, la France aux Français, et son slogan, c'était la France aux Françaises. Et elle a écrit plusieurs livres théoriques sur c'est quoi l'extrême droite au féminin. Eh bien, elle ne dit pas qu'elle est féministe, elle dit qu'elle est contre-féministe, qu'elle développe une théorie du contre-féminisme. C'est vraiment intéressant. Donc pourquoi on irait accoler l'étiquette féministe en plus à des femmes qui ne la revendiquent pas? Ou alors, quand elles la revendiquent, c'est parce que le féminisme est très très légitimé dans l'opinion et que ça devient intéressant politiquement de créer un brouillage sémantique et puis de laisser entendre qu'on est un peu féministe. Parce que sinon, on est trop has-been ou à côté de la plaque. Alors bien sûr que quand on dit « ces femmes font des choix » et ont une responsabilité politique, c'est vrai, mais c'est vrai aussi des hommes. Enfin, on est conditionné aussi. Alors, il faut voir comment les femmes sont conditionnées. Le meilleur exemple, c'est les Brigitte de Berthe Bernage. Exemple historique qui me tient beaucoup à cœur. À partir de 1929, Berthe Bernage a eu un succès de dingue avec des romans d'initiation pour jeunes filles qui s'appelaient les Brigitte. Brigitte jeune fille, Brigitte maman, Brigitte ange du foyer. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça a duré des décennies. Je pense que les plus âgés dans la salle connaissent les Brigitte. Eh bien, Colette Cogny avait fait la démonstration lors du premier colloque sur l'antiféminisme qu'on retrouvait des phrases entières de Pétain dans les livres de Berthe Bernage, dans la bouche de Brigitte. Sans les guillemets, mais des phrases entières. Donc ce qui peut être perçu comme la forme un peu innocente de roman d'initiation pour jeunes filles, hein, comment devenir une vraie femme, eh bien, c'est hyper politique, en fait. Hein. Alors, il y a aussi un apport de femmes scientifiques à l'antiféminisme, Gina Lombroso, une scientifique, psychologue, qui avait une thèse, qui était la fille du célèbre psychiatre italien Cesare Lombroso, a défendu dans l'entre-deux-guerres des théories sur l'altérocentrisme des femmes, par exemple. L'homme est égocentré et il doit respecter cet égocentrisme parce que c'est sa nature profonde qui l'exige. Et les femmes, les vraies femmes, doivent être altérocentrées, comme Brigitte, vivre pour les autres, ne pas avoir d'existence propre. Vivre pour son mari, vivre pour ses enfants. Alors après, il y a des femmes antiféministes qui sont plus paradoxales, un peu inclassables, qui sont souvent antiféministes parce que elles associent le féminisme à une forme de puritanisme sexuel et qu'elles, elles se situent du côté de la révolution sexuelle. Alors je pense à Rachilde, Valentine de Saint-Poin, Annie Lebrun, Catherine Millet, voilà, ce genre de femmes.
The show you're about to hear may contain profanity or harsh language. The opinions expressed by the programmers are not necessarily the opinions of CKUT. If you have a complaint about anything that you hear on air, you can email us at programming@ckut.ca.
I'ma lock the door and throw away the key so I can hide away from you.